Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue à tous. C'est un phénomène qui se répète chaque année. Ramadan rime avec flambée des prix dans de nombreux pays, de l'Égypte au Yémen, de la Tunisie au Mali, du Sénégal au Nigeria en passant par le Niger. Pendant le mois sacré, la consommation s'envole. C'est chaque soir la fête car les familles tiennent à faire du repas de rupture du jeûne, l'iftar, un petit festin. Résultat, le budget des ménages explose, certains s'endettent et la grogne monte. Comment expliquer cette inflation soudaine, à qui profite-t-elle? Comment lutter contre la spéculation? Si vous voulez réagir, appelez-nous au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. Lamine, bonjour.
Bonjour, Sampal.
Vous nous appelez de Banjul en Gambie à propos du limogeage du recteur de l'université de Saint-Louis du Sénégal après la mort d'un étudiant. Guillaume Thibault, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Dakar et vous avez suivi bien sûr cette affaire pour RFI. Lamine, vous pouvez poser votre question à Guillaume.
Eh bien, j'ai appris sur RFI qu'au Sénégal, les étudiants se mobilisent pour le paiement de leur bourse. Cette mobilisation fortement réprimé a conduit à la mort d'un étudiant, d'où le limogeage du recteur de Saint-Louis, remplacé par M. Oumar Carré. À ce sujet, je voulais savoir pourquoi le remplacement du recteur limogé n'a-t-il pas suffi à calmer la colère des étudiants? Que revendique-t-il de plus?
Guillaume.
Et quelle autre mesure pourrait prendre le gouvernement sénégalais afin de calmer la colère des étudiants?
Alors, on va commencer par la première partie de votre question, Guillaume Thibault. Les autorités sénégalaises pensaient que la décision de Macky Sall de remplacer le recteur de Saint-Louis allait calmer les étudiants grévistes.
Tout à fait. Sédou Gueye, le porte-parole du gouvernement, a parlé ce dimanche d'un acte fort posé par le président. Acte fort qui avait pour but de ramener le calme, la paix, a dit le ministre, et pousser donc les étudiants à retourner dans les amphis. Macky Sall a signé ce décret 5 jours après la mort de Fallou Sen. Les syndicats étudiants de Saint-Louis, qui ont manifesté chaque jour depuis la semaine dernière, ont trouvé ce délai très long. Et pour eux, le remplacement du recteur n'est en fait qu'une étape, le début de la lutte, car ils revendiquent désormais notamment les départs des ministres de l'enseignement supérieur, de l'économie et des finances. Mais leur priorité reste que la justice puisse faire son travail, que l'enquête sur la mort de Fallou Sen soit transparente, qu'un procès se tienne. Le gouvernement a promis que ce dossier judiciaire irait à son terme. Les étudiants comme l'opposition en doutent. Le procureur de Saint-Louis avait notamment promis la fin de l'enquête pour ce dimanche. Les étudiants, mais surtout la famille de Fallou Sen, attendent toujours ses conclusions.
Alors qu'est-ce que le gouvernement pourrait prendre comme autre mesure afin de calmer les tensions? Le président de la République a exigé une enquête, notamment sur le versement des bourses.
Macky Sall a en effet demandé à l'inspection générale d'État, l'IGE, structure qu'il contrôle, qui contrôle les comptes publics, d'enquêter sur le problème de distribution de ces bourses. Les enquêteurs sont depuis la semaine dernière dans les ministères de l'enseignement supérieur et des finances. Nous avons rencontré des étudiants qui touchent leur argent parfois après le 20 du mois, d'où cette colère qui est récurrente, que l'on entend quasiment tous les mois ici, autant à Dakar que dans les autres villes du Sénégal où il y a des facultés. Les bourses sont donc d'une certaine façon le problème numéro un, mais la faculté dans son ensemble, elle souffre. Malgré les efforts des autorités, notamment qui ont construit de nombreux logements à Dakar, les étudiants ont toujours des difficultés pour se loger. Les chambres qui sont censées être distribuées aux étudiants les moins aisés sont gérées quasiment de façon mafieuse, notamment à Dakar. Les conditions de vie sont précaires. Le délabrement des anciens bâtiments de la faculté est déplorable. Autant de difficultés dans la vie quotidienne qui impactent sur les études. Toutes ces difficultés, le gouvernement veut s'y atteler. Elles ne sont pas nouvelles et ne seront pas balayées d'un coup de baguette magique. Macky Sall a un problème quasiment politique aujourd'hui. Oui, il a remplacé le recteur de la faculté de Saint-Louis. Il sera compliqué pour lui d'aller plus loin, notamment, par exemple, comme le veut l'opposition, de limoger des membres de son gouvernement. Car si cela devait arriver, l'opposition, qui utilise déjà la mort de Fallou Sen, se jetterait dans cette faille pour critiquer encore plus le chef de l'État, Macky Sall, qui essaye, lui, au contraire, de ne pas céder, tout simplement, car nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle.
Merci Guillaume Thibault pour ces explications et merci à vous Lamine d'avoir participé à cette émission. Bonne journée à Banjul. On part à présent pour Conakry en Guinée où nous attend Macky. Bonjour.
Oui, Chantal, bonjour et bonjour à tous.
Vous vouliez un éclairage sur la visite surprise que Bachar el-Assad a effectuée jeudi à Sotchi, en Russie. Notre correspondant à Moscou, Daniel Valo, est prêt à vous répondre. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Maki, vous pouvez poser votre question, on vous écoute.
Merci Chantal, merci. Alors, récemment, le président syrien Bachar el-Assad a effectué une visite surprise en Russie où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine. Alors Chantal, je voudrais savoir pourquoi tenir cette visite de façon secrète. Aussi, y a-t-il un lien entre cette visite et celle de la chancelière allemande, Angela Merkel, et du président français Emmanuel Macron en Russie?
Alors, on va commencer par donc la première partie de cette question. Pourquoi avoir gardé cette visite secrète, Daniel Valo?
Eh bien d'abord, il faut remarquer que cela devient en quelque sorte une habitude. Déjà en novembre dernier, lors de la précédente visite de Bachar el-Assad en Russie, la visite avait été tenue secrète et annoncée a posteriori. La différence, c'est que cette fois, on l'a appris le soir même, alors qu'en novembre, la nouvelle avait été diffusée le lendemain matin, de même que les images de la rencontre. Cette fois, le Kremlin est allé plus vite, mais le principe reste le même. La rencontre est rendue publique après qu'elle ait eu lieu. Alors pourquoi ce secret? Il y a sans doute d'abord une raison liée à la sécurité. Bachar el-Assad n'est pas un dirigeant comme les autres, bien entendu. Son pays est en guerre civile et il est considéré comme un dictateur sanguinaire, un criminel de guerre par un grand nombre de personnes. Il peut donc tout simplement s'agir d'une mesure visant à le protéger. Il y a une autre hypothèse, sans doute, la volonté de mettre en scène ces visites de Bachar el-Assad en Russie, une façon pour Vladimir Poutine de montrer qu'il est non seulement l'allié du président syrien, mais également que Bachar el-Assad lui est redevable de son intervention militaire en Syrie et qu'il est donc en mesure de le contrôler. C'est important. Vladimir Poutine, dans ce dossier syrien, veut montrer qu'il a les moyens de peser sur les acteurs du conflit, à commencer bien sûr par Bachar el-Assad.
Daniel Valo, est-ce qu'il y a un lien entre cette visite, donc jeudi dernier, de Bachar el-Assad en Russie et celle, le lendemain, de la chancelière allemande, Angela Merkel, et celle d'Emmanuel Macron, qui est attendue ce jeudi en Russie?
Alors, bien entendu, on peut se poser la question, puisque Angela Merkel, vous l'avez dit, est arrivée à Sotchi tout de suite après la visite de Bachar el-Assad, et Emmanuel Macron, en effet, est attendu après-demain à Saint-Pétersbourg. Il faut noter également que la précédente visite de Bachar el-Assad avait coïncidé avec une séquence diplomatique précise. La Russie voulait alors organiser le congrès de Sotchi pour relancer le dialogue politique en Syrie. Donc on peut sans doute faire ce lien. Vladimir Poutine veut montrer aux dirigeants européens, à Angela Merkel, à Emmanuel Macron, qu'il a la main sur le dossier syrien. Et il le fait à un moment précis, au moment où les pays européens sont en froid avec Donald Trump, le président américain qui a déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Il y a sans doute donc dans l'esprit du président russe l'intention de profiter de ce moment pour avancer sur plusieurs sujets diplomatiques, à commencer par la Syrie. Il veut relancer le processus de paix en Syrie. Il a tenté de le faire à Sotchi en janvier dernier, mais sans les pays occidentaux. Il s'est rendu compte que cela ne fonctionnait pas vraiment. Il veut donc donner un nouvel élan à ce processus en associant cette fois les pays européens.
Merci Daniel Valo, correspondant de RFI à Moscou. Maki, continuez à nous écouter à Conakry. Bonne journée. On reste à Conakry où nous allons maintenant retrouver Abdoulaye. Bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs.
Alors vous souhaitiez en savoir plus sur les quelques 300 imams étrangers qui sont arrivés en renfort en France pour le mois du Ramadan. Pour vous répondre Abdoulaye, nous avons en ligne Abdelali Mamoun, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes imam et théologien, auteur de l'ouvrage « L'islam contre le radicalisme, manuel de contre-offensive ». C'est paru aux éditions du CERF en 2017. Abdoulaye, vous pouvez poser votre première question à Abdelali Mamoun.
Chantal, la France a accueilli 300 imams pour le mois de Ramadan venant d'Algérie, de Turquie et du Maroc grâce à des accords bilatéraux entre ces pays. Pourquoi ces imams viennent-ils exactement en France?
Abdelali Mamoun, quelle explication?
Alors vous avez une réponse officielle qui est soi-disant d'aider les associations qui sont dans le besoin d'imams pour pouvoir assurer l'animation des soirées du Ramadan, notamment à travers la récitation des prières de Tarawih, qui sont des prières qui exigent la mémorisation de l'intégralité du Coran. Donc ce sont des imams qui sortent des zawiyas algériennes, ce qu'on appelle les zawiyas, ce sont des écoles coraniques, et qui donc sont là pour réciter le Coran et animer spirituellement les nuits du Ramadan. Ça c'est la réponse officielle. La réponse officieuse, c'est bien sûr la symptomatique d'un désordre qui règne aujourd'hui en France en matière de gestion de l'islam, qui est aujourd'hui sous-traité de l'étranger, et qui montre bien combien l'emprise et l'ingérence est énorme en matière de gestion de l'islam en France par les États étrangers, et tout cela avec la bénédiction de l'État français. Je sais que Macron est en train de réfléchir à résoudre ce problème-là, et de trouver une solution pour que l'islam de France soit géré par les musulmans de France, par une autogestion des musulmans de France, mais on est encore loin de ce résultat-là.
Abdoulaye, est-ce que vous avez une deuxième question à poser à Abdelali Mamoun?
Oui, Chantal. Pourquoi leur arrivée fait-elle polémique en France?
Alors, tout simplement parce qu'effectivement, avec les attentats qui ont eu lieu récemment, eh bien, beaucoup de Français s'inquiètent de cette arrivée d'imams qui ne sont connus ni d'Adam ni d'Ève, des services de police, ni de leur capacité à comprendre le contexte français et à encadrer des musulmans. De surcroît que la politique aujourd'hui algérienne constitue énormément à alimenter la mémoire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été perpétré par l'État français lors des colonisations. Cette alimentation ne fera que créer des tensions supplémentaires dans l'esprit de nos jeunes qui sont aujourd'hui assoiffés de vengeance, assoiffés de spiritualité aussi, parce qu'ils vont dans les mosquées pour chercher une réponse à leurs besoins. Mais malheureusement, ce qu'ils trouvent devant eux, ce sont des imams qui soit se désintéressent d'eux parce qu'ils n'ont pas du tout la même mentalité, ils viennent d'un autre pays et en plus ils n'ont pas pour vocation de s'occuper de ces jeunes. Ce qui fait que ces jeunes-là aujourd'hui, eh bien, ils se retrouvent face à un boulevard totalement vide où il n'y a personne pour s'occuper d'eux, et ce sont malheureusement des prédateurs terroristes qui les endoctrinent et qui font d'eux aujourd'hui des criminels et des barbares, ce qui est aujourd'hui extrêmement déplorable. Nous devons avoir aujourd'hui nos imams qui sont formés en France et qui sont censés avec vocation et avec dévotion s'occuper de l'intégralité de leurs ouailles, c'est-à-dire y compris des anciens issus des Trente Glorieuses qui aujourd'hui ne constituent aucune menace, mais aussi tous ces jeunes derrière dans les rangs et qui dans les mosquées, je veux dire, et qui sont aujourd'hui à la recherche d'un sens et d'un guide spirituel qui les orienterait de manière convenable vers un islam responsable, vers un islam compatible avec les valeurs républicaines dans lesquelles ils pourraient s'épanouir tranquillement en tant que musulmans et français, ou français et musulmans, peu importe le sens, dans quel sens on le dit.
Mais Abdelali Mamoun, vous avez des mots très durs, vous parlez de prédateurs. On ne peut pas être sûr que parmi ces 300 imams qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Turquie, se trouvent des prédateurs, comme vous le dites.
Ah non, j'ai pas dit que c'était eux les prédateurs. Attention,
ah, je vous ai mal compris.
J'ai dit que du fait qu'ils laissent eux un terrain vacant, puisqu'ils ne s'occupent pas de ces jeunes-là, ils sont là simplement pour assurer l'animation pour les gens du bled, qu'on appelle entre guillemets de manière péjorative un petit peu les blédards. Ce sont donc les mosquées sont consacrées intégralement à assurer les besoins de ces gens qui sont issus de l'immigration et qui sont des gens tranquilles, qui ne constituent pas une menace pour la République et pour les citoyens de France. Mais ces jeunes qui ont besoin d'être encadrés par des imams jeunes qui comprennent leur langage, qui sont issus de la deuxième ou de la troisième génération et qui comprennent le discours des jeunes-là, eh bien, ils sont totalement inexistants. Ou au contraire, ils le sont, mais de manière extrêmement négative, c'est-à-dire que ce sont des prédateurs clandestins qui attendent ces jeunes-là, qui n'ont pas été comblés, qui n'ont pas été encadrés par ces imams-là venus du bled, eh bien, ils les récupèrent et les endoctrinent et font d'eux une menace pour la République et pour les citoyens de France. Et d'où la raison de la perpétuité de ces attentats qui se répètent périodiquement parce que des jeunes se sont laissés endoctriner par des prédateurs en absence d'imams compétents qui étaient censés s'occuper d'eux dans les mosquées et qui ne l'ont pas fait. Donc c'est parce que l'islam est mal organisé et mal structuré qu'aujourd'hui des jeunes dévient et se laissent endoctriner par d'autres prédateurs, comme je dis, qui, bien sûr, eux, sont dans la clandestinité. On ne sait pas qui ils sont. Ils sont peut-être sur Internet. Ils sont dans les abords des rues. Et ce sont aussi peut-être dans des quartiers de zones de non-droit.
Merci beaucoup, Abdelali Mamouna. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, sur l'organisation de l'islam en France. Merci aussi à Abdoulaye pour vos questions. Bonne journée à Conakry. On va terminer cette première partie avec Fiston qui nous appelle Dada Bawere. Voilà, j'y arrive. Au Togo, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI, à toute la valeureuse équipe d'Appel sur l'actualité.
Alors c'est la réélection de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela que vous avez retenu de l'actualité. Thomas Posado, bonjour, merci d'être en direct avec nous.
Merci de votre invitation.
Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 8 et spécialiste du Venezuela. Fiston, quelles questions vouliez-vous poser à Thomas Posado?
Exactement, le principal candidat de l'opposition du Venezuela, Falcon Henry, a rejeté les résultats de la dite élection présidentielle et exige une nouvelle élection crédible avant la fin de cette année. Quelles sont les chances de rassembler l'ensemble de l'opposition autour de cette revendication?
Voilà, le président... Oui, allez-y.
Quel impact politique, économique, sociaux, la non-reconnaissance de cette élection par les USA, l'Union européenne et d'autres pays de l'Amérique latine peut avoir sur le Venezuela?
Alors on va commencer par la première partie de la question. Le président Chavez a obtenu donc 68% des voix contre 21,2% à Henry Falcon, son principal adversaire. Ce dernier parle de scrutin sans légitimité et il réclame une nouvelle élection avant la fin de l'année. Est-ce que c'est un vœu pieux, Thomas Posado?
Oui, c'est un vœu pieux. Enfin, les chances qu'une nouvelle élection soit organisée d'ici la fin de l'année, elles sont extrêmement faibles, tout au moins dans le contexte actuel. Henry Falcon, il s'est présenté à une élection dont les conditions de transparence étaient déjà questionnées, c'est-à-dire que la date du scrutin a été anticipée par Nicolas Maduro parce qu'il pensait que ça maximisait ses chances. Le registre électoral n'a pas été renouvelé pour inclure les Vénézuéliens qui sont partis du pays. Enfin, il y a tout un tas... plusieurs candidats majeurs de l'opposition qui ont été inhabilités. Donc, il y avait plusieurs conditions qui faisaient que cette élection n'était pas transparente au départ. Ce qui faisait que les quatre principaux partis de l'opposition appelaient au boycott de ces élections. Ce qui fait que c'était un vivier de voix hypothéqué pour Henry Falcon, qui du coup a subi une défaite extrêmement lourde. Donc, on a une opposition divisée qui va avoir du mal en plus à revendiquer de manière unitaire la convocation de nouvelles élections. On est dans une situation où Nicolas Maduro arrive à mobiliser par des pressions sur le non-renouvellement des paniers alimentaires qu'il attribue à la population. Il arrive à mobiliser environ 30% de l'électorat, ce qui est minoritaire, mais par des manœuvres institutionnelles, en divisant l'opposition, il arrive à emporter des élections de ce type-là, avec, une légitimité démocratique limitée et... La vraie victoire du scrutin, c'était l'abstention ce dimanche, qui a obtenu 54% des électeurs vénézuéliens. Mais l'issue à cette crise politique, elle n'est malheureusement pas envisageable à court terme.
Et l'impact des sanctions américaines, des nouvelles sanctions américaines par exemple, quel peut-il être?
L'impact des sanctions américaines, elles peuvent être à la fois dramatiques pour la population vénézuélienne, parce qu'on a une situation économique qui est particulièrement grave, avec une hyperinflation qui est de l'ordre de 14 000%, une monnaie qui s'effondre, un salaire minimum qui permet d'avoir moins de 10% des besoins alimentaires d'un foyer, et elles peuvent être aussi contre-productives parce que Nicolas Maduro utilise ces sanctions à la fois des États-Unis et de l'Union européenne pour mobiliser sa population contre une ingérence de l'étranger et contre un nouveau colonialisme des États-Unis et de l'Union européenne. Donc elles sont à la fois pour la population dans les conséquences qu'elles ont, c'est-à-dire qu'on est un pays qui est déjà en défaut partiel de paiement pour deux agences de notation, et contre-productives parce que elles sont vues comme une ingérence par une large partie de la population, et elles permettent d'agréger un noyau d'électeurs à Nicolas Maduro sur la revendication d'une défense de la souveraineté nationale.
Merci beaucoup Thomas Posado d'avoir été en ligne avec nous. Fiston, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Adaba Ouéré au Togo. En raison d'un mouvement de grève dans la fonction publique, pas de journal Afrique ce matin. On va donc se retrouver dans 10 minutes après une plage musicale dans une poignée de secondes. Donc, il sera 10h30 à Paris.